Chapitre 20. Un point tracassait Richard. Quelque chose qui n'avait pas de sens, il fallait bien l'admettre. Comment le procureur en chef Lottin avait-il pu renier ses convictions et trahir le Nouveau Monde? Parce qu'il était tombé soudain sous la coupe de l'Ancien? Comme on attrape une maladie contagieuse? Non, ce n'était pas ça. La réalité s'imposa à l'esprit du sourcier avec la brutalité d'une révélation au sens mystique du terme. Rudement secoué, il en eut presque le souffle coupé. Depuis toujours, il trouvait une faille dans les antiques récits. En ramenant tout cela à sa mémoire, Chota venait de lui permettre de remettre en place la pièce manquante du puzzle. Maintenant, il comprenait ce qui le gênait depuis le début. Et bien sûr, après avoir trouvé la solution, il se demandait comment il avait pu passer à côté pendant si longtemps. Lottin était un procureur très rigoureux, dit-il, parlant tout seul. La solution de l'énigme sortait de ses lèvres sans qu'il ait eu besoin d'y penser. Il n'a pas fixé son fanatisme sur un autre sujet. Et il n'a jamais trahi personne. Ce n'était pas un félon, mais un espion. Une taupe infiltrée depuis des décennies dans les sphères dirigeantes du Nouveau Monde. Pendant très longtemps, son activité s'est limitée à gravir les échelons du pouvoir. Bien évidemment, des complices travaillaient pour lui, des agents sous couverture, ça va sans dire. Le sorcier Lottin était un homme respecté et très puissant. À force d'intrigues, il avait obtenu une place de choix dans la hiérarchie de la forteresse. Quand l'occasion qu'il attendait s'est présentée, il a agi avec une rare efficacité. Pour commencer, il s'est arrangé pour que ses agents fassent partie de l'équipe du Temple. Comme les fanatiques de l'ordre aujourd'hui, Lottin et ses séides croyaient dur comme fer à leur cause. L'équipe du Temple échoua à cause d'un sabotage. Il ne s'est jamais agi d'une erreur due à des tourments de conscience. Tout était prévu dès le début. Ces gens étaient prêts à se sacrifier pour leurs convictions. J'ignore combien de membres de l'équipe étaient des espions, peut-être tous qui sait, mais ils ont réussi leur coup. Ont-ils convaincu les autres de collaborer avec eux en usant d'arguments biaisés? Franchement, je n'en sais rien. Bien entendu, il était inévitable que les autres sorciers de la forteresse s'avisent de l'échec du projet Temple des Vents. Dès cet instant, Lottin fit montre d'un zèle inlassable dès qu'il s'agissait de poursuivre les criminels. Il fit le nécessaire pour que tout soit exécuté, la garantie que personne ne resterait en arrière pour raconter la vérité. Depuis le début, Lottin savait que le secret, au cours de cette opération, interdirait que des contre-mesures efficaces soient prises. Les espions qu'il avait désignés se sont sacrifiés volontairement en portant leur secret dans la tombe. En faisant condamner à mort toute l'équipe du Temple, le manipulateur parvint à dissimuler ses machinations. Plus personne n'avait conscience de l'étendue des dégâts. Un jour, tôt ou tard, la cause que défendait Lottin balayerait toute opposition et dominerait le monde, et lorsque ça arriverait, il serait tenu pour le plus grand héros de la guerre. Il restait un petit problème. Après le procès, les sorciers qui dirigeaient la forteresse décrétèrent que quelqu'un devait aller remettre les choses en place dans le Temple des Vents. L'âme de la conspiration devait s'y rendre en personne, bien entendu. Sinon, informés de la nature du sabotage, les sorciers auraient pu intervenir et réparer les dégâts. Depuis le début, Lottin avait prévu de passer derrière ses agents pour finir de dissimuler la vérité. Son titre de procureur en chef avait tout pour inspirer confiance, bien entendu. Une fois dans le temple, il ne se contenta pas d'éviter qu'on agisse sur le sabotage. Utilisant les informations qu'il découvrit sur place, il aggrava les choses afin qu'il soit pratiquement impossible de réparer la brèche. Puis, il maquilla son intervention pour qu'elle ait l'air d'être le contraire de ce qu'il avait fait. Il y eut hélas un grain de sable dans sa belle mécanique. Ses interventions furent assez importantes pour déclencher l'alarme qui défendait l'intégrité du temple. Alors qu'il était à l'intérieur de l'édifice, il ne s'aperçut pas que la lune rouge était apparue dans le monde des vivants. À son retour, il se fit cueillir comme une fleur. Mais il s'en fichait, car il avait hâte de mourir et de connaître la gloire et la béatitude dans l'autre monde, exactement la façon de penser des fanatiques de l'ordre, comme nous l'a expliqué Nietzsche. Les sorciers de la forteresse devaient absolument connaître l'étendue des dégâts. Mais Lottin ne parla pas, même sous la torture. Afin de découvrir la vérité, Magda Cyrus se métamorphosa en inquisitrice. Mais elle maîtrisait mal ses pouvoirs et manquait d'expérience. Lorsqu'elle arracha une confession à Lautin, elle n'accorda pas assez d'importance à un détail capital, savoir poser la bonne question. Richard regarda sa mère dans les yeux. Un jour, Callan m'a dit qu'obtenir des aveux était facile. Tout l'art d'une inquisitrice, c'est de mener son interrogatoire de façon à obtenir l'entière vérité. Mérite venant à peine d'imaginer les inquisitrices, personne ne pouvait en savoir aussi long sur le mode de fonctionnement de leur pouvoir. Pour être parfaitement au point, Callahan a été entraîné depuis sa plus tendre enfance. À l'époque, Magda tâtonnait. Persuadée que Lautin lui avait tout dit, elle le laissa dissimuler la véritable profondeur de sa trahison. Personne ne se douta qu'il était une taupe, et on sous-estima la gravité de son intervention dans le temple et de celle de ses agents par la même occasion.
« Tu es sûr de ce que tu dis, Richard? Vraiment sûr ?»«
Oui. Et maintenant, tout est clair dans mon esprit. Avec les nouveaux éléments que tu m'as fournis, tout s'est enfin mis en place. Lautin était un espion, mais il réussit à mourir en se faisant passer pour un vulgaire traître. Céséide étant mort sans parler, personne ne mesura l'importance des dommages, et Baracus lui-même se laissa abuser. » La mère de Richard soupira et détourna les yeux.
Voilà qui m'explique beaucoup de choses.
Elle regarda de nouveau son fils comme si elle le voyait pour la toute première fois.
Du très bon travail, Richard. Excellent, vraiment.
Richard massa un instant ses yeux gonflés de fatigue. Fouiller dans les poubelles de l'histoire pour en extirper de telles choses ne le rendait pas particulièrement fier, même si c'était un travail qu'il devait faire. Baracus aurait laissé un livre pour moi.
Magda s'est chargée de mettre l'ouvrage en sécurité. Ce livre t'est destiné, Richard.
Tu crois vraiment?
Oui. Alors qu'il était encore dans le temple, Baracus a rédigé ce texte en se servant des connaissances collectées dans l'édifice. Personne ne l'a lu depuis que le sorcier de guerre a écrit le dernier mot et refermé la couverture. Depuis des millénaires, ce grimoire t'attend dans une bibliothèque secrète.
Cette seule idée fit frissonner Richard.
Où pouvait être la bibliothèque en question?
Et même s'il la trouvait, comment saurait-il de quel livre il s'agissait? Presque certain de ne pas obtenir de réponse, il posa quand même la question.
Connais-tu le titre de ce livre? Ou sais-tu au moins de quoi il parle?
La mère du sorcier hocha gravement la tête.
Les secrets du pouvoir d'un sorcier de guerre.
Par les esprits du bien. Soupira Richard. Posant les coudes sur ses genoux, il se prit la tête à deux mains. Submergé par un flot d'informations, il était sonné, comme s'il avait reçu un coup de poing dans la figure. Le dernier homme qui était entré dans le temple des vents 3000 ans plus tôt s'était assuré que la magie soustractive soit un jour libérée du royaume des morts. Grâce à lui, Richard avait pu naître avec les deux facettes du don. Ainsi, il avait pu lui aussi pénétrer dans le temple et endiguer une épidémie de peste déclenchée par Jagang, un tyran doté du pouvoir de marcher dans les rêves. Mais sans Lautin, un espion au service de l'Ancien Monde et un contemporain de Baracus, l'empereur n'aurait jamais pu naître avec ce pouvoir. Enfin, ce même Baracus avait laissé à l'attention de Richard un livre qui lui expliquait sans doute comment vaincre Jagang. Après le suicide de Baracus, les autres sorciers avaient conclu qu'il était désormais impossible de pénétrer dans le temple, que ce soit pour répondre à l'appel de la Lune Rouge ou pour toute autre raison. Du coup, ils n'avaient jamais eu la possibilité de réparer les dégâts causés par l'équipe du temple puis par le procureur en chef. Baracus, lui, avait pu agir. Au fond, c'était peut-être lui qui avait scellé à jamais, apparemment, le temple des vents. Une précaution judicieuse afin que personne ne puisse neutraliser la contre-mesure qu'il avait prévue, en d'autres termes, la naissance de Richard. Le sourcier releva les yeux et constata que sa mère s'était volatilisée. Shota se tenait de nouveau devant lui, l'ourlet et les manches de sa robe ondulant sous les effets d'une improbable brise. Richard eut le cœur brisé par le départ de sa mère. En même temps, il dut reconnaître que la suite du dialogue avec la voyante en serait sans nul doute facilitée.
Sais-tu où est la bibliothèque secrète de Baracus ?
Désolé, mais j'ai peur que non. Seul le sorcier de guerre et sa femme connaissaient cette information.
Vêtu de la tenue de Baracus, portant autour du cou l'amulette de Baracus et doué pour la magie soustractive grâce à Baracus, Richard devait maintenant trouver l'ouvrage initiatique que lui avait laissé Baracus.
Jota, il y a des dizaines et des dizaines de bibliothèques dans la forteresse. Si celle de Baracus est cachée dans le lot, il peut me falloir une vie pour la trouver.
Non, cette bibliothèque n'est pas dissimulée parmi les autres. Je sais au moins ça. Le lieu est unique et tous les ouvrages qu'il contient existent en un seul exemplaire. Jusqu'à ce jour, personne n'a posé les yeux dessus.
Pourquoi n'a-t-il pas choisi de laisser ses trésors en sécurité dans l'enclave privée ?
En sécurité ? Il y a quelque temps, des sœurs de l'obscurité au service de Jagang ont violé ce sanctuaire. Elles ont volé des artefacts et des livres. Jagang les accumule car ils contiennent des connaissances qui peuvent l'aider à conquérir le monde. Si l'ouvrage de Baracus avait été caché ici, il serait peut-être déjà entre les mains de Jagang. Le sorcier de guerre a eu raison de le mettre à l'abri d'adversaires susceptibles d'en tirer avantage, ou d'alliés contraints de le détruire pour qu'il ne tombe pas entre de mauvaises mains.
Le sort qu'avait connu le grimoire des ombres recensées. À cause d'une prophétie, Anna et Nathan avaient aidé George Cypher à rapporter l'ouvrage en terre d'Ouest. L'idée de départ était que Richard l'apprenne par cœur avant de le jeter dans les flammes.
Mais il était vite apparu que Darkenral avait besoin du texte pour ouvrir les boîtes d'Orden, les trois artefacts que détenaient aujourd'hui des sœurs de l'obscurité. Celle-là même, pour compliquer les choses, qui avait enlevé Kalan, la dernière inquisitrice, et la fidèle alliée de Richard au début de leur histoire, en partie à cause d'une phrase du grimoire.
Richard prit entre le pouce et l'index l'amulette que lui avait léguée Baracus. Un moment, il étudia le symbole qui représentait la danse avec les morts. Une telle série d'événements ne pouvait pas reposer sur des coïncidences.
Jota, tu insinues que Baracus, ayant prévu tout ce qui se passerait, a pris des dispositions très particulières pour cacher le livre ?
Navré, Richard, mais je suis dans l'incapacité de te répondre. Il était peut-être simplement prudent de nature. Quand on pense à l'enjeu, ce luxe de précaution paraît logique et judicieux. Je t'ai dit tout ce que je savais. Bien sûr, il peut tout à fait y avoir une multitude d'autres choses, par exemple les informations que tu as collectées à d'autres sources. En fait, tu en sais désormais plus long que moi, et que quiconque ayant jamais arpenté ce monde, à part le sorcier de guerre nommé Baracus.
Quoi que puisse dire Jota, rien ne rassurait Richard tant qu'il n'aurait pas trouvé le livre de son prédécesseur et père spirituel en un sens. Sans cet ouvrage, le Nouveau Monde n'avait pas eu une chance de vaincre, voire de simplement repousser les hordes de Jagang. Sous le règne de l'Ordre, la magie disparaîtrait et l'espion Lotin triompherait 3000 ans après sa mort. Sans le livre, le plan de Baracus ne fonctionnerait pas et Jagang remporterait la victoire. Richard leva les yeux et vit à travers le toit vitré qu'il faisait presque nuit dehors. Jusque-là, il ne s'en était pas aperçu à cause de la vive lumière des lampes. Mais qui donc les avait allumées ?
Jota, j'ai besoin d'informations. Si je ne sais pas utiliser mes pouvoirs de sorcier de guerre, comment arrêterai-je l'ordre impérial ? Tu ne peux pas me donner au moins un indice ? Si je ne trouve pas très vite le livre, je serai fichu et tout le Nouveau Monde avec moi.
Jota prit le menton du sourcier et le regarda dans les yeux.
« Tu as conscience, j'espère, que je ne te cache rien. Si je savais où est cet ouvrage, je te le dirais. Tu sais combien je redoute l'ordre impérial. »«
Mais d'où tiens-tu des informations si précises, au moins sur certains points ? Et pourquoi les distilles-tu au compte-gouttes ? N'aurais-tu pas pu me dire tout ça lors de notre première rencontre ? Ou quand je tentais d'entrer dans le temple pour enrayer l'épidémie de peste ?
Quand tu réfléchis à un problème, la réponse jaillit dans ton esprit sans crier gare, pas vrai ? Tu ne peux pas programmer cette inspiration. C'est pareil pour moi. Je me penche sur un problème et une idée me vient. Tout le monde procède ainsi. N'était qu'une voyante à des idées bien particulières qui sont intimement liées au flot du temps. Tout à l'heure, tu as soudain trouvé la solution de l'énigme lotin. Aurais-tu pu le faire sur demande? Non? Eh bien, c'est pareil pour moi. Si je pouvais t'aider à trouver le livre, je n'hésiterais pas une seconde, crois-moi.
Richard se leva en soupirant. Je sais, Shota. Merci pour tout. Je tenterai d'utiliser au mieux tes informations.
La voyante posa une main sur l'épaule du sourcier et la pressa gentiment.
Je dois partir. J'ai une collègue à traquer. Au moins, grâce à Nietzsche, je connais son identité.
Six? C'est étonnant comme nom. La voyante se rembrunit.
C'est péjoratif. Une voyante distingue beaucoup de choses dans le flot du temps, en particulier au sujet des filles qu'elle met éventuellement au monde. Pour nous, la septième est très spéciale. En revanche, baptiser une enfant six est une façon de la stigmatiser, de signifier clairement son imperfection. C'est une insulte directe. La preuve que la mère prévoit un avenir peu glorieux à sa fille. En d'autres termes, ça annonce au monde que l'enfant est taré. Pour laver cet affront, six a certainement dû assassiner sa mère dès qu'elle en a eu l'occasion.
Pourquoi avoir choisi ce nom dans ce cas? Pour éviter d'être tuée, la mère aurait pu ne pas insulter sa fille.
Shota eut un sourire mélancolique.
Certaines voyantes croient à la vérité, Richard. Cette vérité qui permet d'épargner des malheurs aux autres. Aux yeux de ces femmes, un mensonge est souvent la source d'une série de drames qui auraient pu être évités. Pour nous, la vérité est le seul espoir de l'avenir. Et l'avenir, Richard, reste notre bien le plus précieux.
Je comprends. Eh bien, cette six est à la hauteur de son nom, dirait-on.
Shota se rembrunit encore et leva un index en guise d'avertissement.
Une voyante ainsi nommée peut adopter un pseudonyme. C'est en général ce qui se passe. Celle-là, en revanche, montre son nom comme un serpent et exhibe ses crochets. Mais occupe-toi de tes affaires et laisse-moi régler ce conflit entre consoeurs. Une voyante peut être trop dangereuse, même pour un sourcier.
Comme toi? Demanda Richard avec un petit sourire.
Comme moi, oui,
répondit Shota parfaitement sérieuse.
Tandis qu'elle gravissait la volée de marche, Richard resta près de la fontaine. En haut du court escalier, Nietzsche, Kara, Zed, Nathan, Anna et Jebra étaient en grande conversation et ils n'accordèrent pas la moindre attention à la voyante lorsqu'elle passa à côté d'eux. Richard monta à son tour les marches et raccompagna Shota jusqu'à la sortie. Alors que sa silhouette se découpait dans l'encadrement de la porte ouverte, la voyante se retourna soudain comme si elle venait de voir un spectre. Tendant une main, elle s'appuya au chambranle comme si elle avait du mal à rester sur ses jambes.
« Une dernière chose, Richard. Ta mère est morte dans un incendie lorsque tu étais jeune, n'est-ce pas ?»«
C'est ça, oui. Un homme est venu chercher querelle à George Cypher, mon beau-père. Dans la bagarre, une lampe renversée a mis le feu à la maison. » Ce soir-là, comme d'habitude, mon frère et moi dormions dans la chambre du fond. Alors que l'homme entraînait George dehors en le frappant, ma mère nous a sortis de là juste à temps.
Richard eut le cœur serré, comme chaque fois qu'il racontait cette histoire. Heureuse que les enfants soient sauvés, sa mère lui avait souri, puis elle avait embrassé Richard sur le front.
Après nous avoir secourus, elle est retournée dans la maison pour aller chercher quelque chose. Nous n'avons jamais su quoi. Quand elle a été piégée, ses cris ont ramené l'adversaire de mon père à la raison. George et lui ont essayé de sauver ma mère, mais il était trop tard, la chaleur était déjà insupportable. Désespéré d'avoir provoqué une telle catastrophe, le type a éclaté en sanglots en demandant pardon. Une affreuse tragédie. D'autant plus qu'il n'y avait personne d'autre dans la maison, et aucun objet méritant qu'on risque sa vie. Ma mère est morte pour rien et c'est dur à accepter.
D'une parfaite immobilité, Shota dévisagea Richard pendant ce qui sembla une éternité.
Le sourcier attendit en silence, tendu comme un arc, car quelque chose dans la posture de la voyante et une lueur au fond de ses yeux en amande auguraient d'une nouvelle surprise.
« Ta mère n'a pas été la seule à mourir dans cet incendie ?»
dit-elle enfin d'une voix très douce.
Richard en eut la chair de poule le long de tous les membres. Tout ce qu'il croyait depuis sa plus tendre enfance venait d'être réduit en miettes par quelques mots. « Que veux-tu dire ? De quoi parles-tu, bon sang ?»«
Richard, je ne sais rien de plus, je te le jure sur ma vie. »
Le sourcier avança et prit le bras de la voyante. En prenant garde à ne pas le serrer aussi fort qu'il en avait envie pour ne pas le broyer dans son poing.
« Comment ça, tu ne sais rien de plus ? Comment peux-tu proférer des énormités pareilles et laisser les gens se débrouiller avec ? Tu balais en quelques mots tout ce que je croyais sur la mort de ma mère et tu prétends ne rien pouvoir préciser ? C'est se moquer du monde, Chota. Tu dois en savoir davantage. »
La voyante tendit les bras et prit entre ses mains le visage de Richard.
« Lors de ta dernière visite dans la longe d'Agaden, tu as fait quelque chose pour moi que je n'ai pas oublié. Tu as refusé de rester, mais parce que je méritais mieux selon toi qu'un compagnon contraint de s'installer chez moi. Tu as même ajouté qu'il me fallait quelqu'un qui m'apprécie à ma juste valeur. Sur le moment, j'étais furieuse, puis j'ai commencé à réfléchir. Si personne ne m'avait jamais éconduite, tu l'as fait pour une bonne raison, parce que tu te souciais de moi et de mon bonheur, au risque de braver ma colère, ce qui n'est pas une mince affaire. Quand j'ai adopté l'apparence de ta mère, cela a modifié la nature du flot d'informations que je perçois en permanence. Il y a quelques minutes, alors que j'allais partir, une pensée a traversé mon esprit. Je te l'ai fidèlement retransmise. Ce jour-là, ta mère n'a pas été la seule à mourir dans cet incendie. Comme tout ce que je pêche dans le flot du temps, si tu m'autorises cette métaphore, cette révélation se présente sous la forme d'une intuition. Je ne peux pas la décortiquer ni en apprendre plus à son sujet. Ça fonctionne ainsi, Richard, je n'y peux rien. Dans des circonstances normales, je ne t'aurais pas communiqué un fragment d'information si lourdement chargé de virtualité et de remise en question. Mais nous ne sommes pas dans des circonstances normales. J'ai donc décidé que tu devais être informé de tout ce que je savais. Les données que je collecte ne se révèlent pas toutes exploitables, loin de là. C'est pour ça que je garde certaines choses pour moi. Aujourd'hui, j'ai fait une exception parce que tu as besoin de tout ce qui pourrait t'aider. »
Toujours désorienté, Richard ne parvenait toujours pas à donner un sens à la révélation de Chota. « Une part de tous ses proches est morte avec ma mère ce soir-là. Tu crois que c'est le sens de ton intuition ? Nous dire que nos cœurs n'ont plus jamais été vraiment légers. Une sorte d'image, pas une affirmation à prendre au pied de la lettre. »
Je n'en sais rien, Richard, mais c'est possible. Il peut s'agir de quelque chose de banal, comme ce que tu suggères, ou d'un élément qui peut énormément t'aider. Je n'ai aucun moyen d'établir une hiérarchie entre mes visions. Rien ne me permet de les classer par ordre d'importance. Ma tâche est de transmettre les informations avec une grande précision et je m'en suis acquitté. »
Richard sentit une larme rouler sur sa joue. « Chota, je me sens si seul. Tu m'as amené Djebra et son récit me donnera des cauchemars pendant longtemps. À part ça, je ne suis pas plus avancé. Beaucoup de gens croient en moi et dépendent de moi. Tu ne peux vraiment me fournir aucun indice qui me mettrait sur la bonne piste ?»
Du bout d'un index, Chota essuya la larme de Richard. Un geste très simple qui réconforta un peu le sourcier.
« Je pleure de ne pas connaître les réponses qui pourraient te sauver. Si je le détenais, sois certain que je te les livrerais de bon cœur, mais je sais qu'il n'y a que du bon en toi et je te fais confiance. Tu as ce qu'il faut pour réussir. Quand viendra le temps où tu douteras de toi-même, ne renonce pas. Souviens-toi que je croyais en toi et en tes chances de succès. Tu es un être d'exception. Aie confiance en toi. »
Chota franchit la porte et se retourna, fine silhouette presque dévorée par la pénombre.
« Que Kala n'ait existé ou non n'importe plus, »
dit-elle.
« La survie du monde des vivants est en jeu. Oublie une vie afin de sauver toutes les autres. Je t'en conjure, détourne-toi de ce chemin qui ne te mène à rien. »
Une nouvelle intuition, Chota, glanée dans le flot du temps,
Il n'y avait aucune ironie dans la question de Richard, bien trop accablé pour jouer à de stupides petits jeux. La voyante secoua la tête.
« Non, l'opinion d'une voyante, c'est tout. »
Chota se dirigea vers l'enclos où l'attendait son cheval.
« Les enjeux sont trop importants, Richard. Tu dois cesser de poursuivre un fantôme. »
Quand il fut retourné dans le hall, Richard constata que Djebra était le centre de l'attention générale. Tout le monde lui soufflait des encouragements et des propos compatissants. Apercevant son petit-fils, Zed changea de sujet au milieu d'une phrase.
« Plutôt bizarre, non, mon garçon ?»«
Quoi donc ?»«
Eh bien, que Chota se soit volatilisé pendant que Djebra nous racontait son histoire. »«
Volatilisé ?» répéta le sourcier sur ses gardes.
« Exactement, »
confirma Nietzsche.
« J'aurais pourtant parié qu'elle nous tiendrait un petit discours lorsque Djebra en aurait terminé. »
« Elle a peut-être dû partir d'urgence, » marmonna Kara, histoire de se trouver quelqu'un à intimider.
« Ou elle s'est déjà lancée sur la piste de l'autre voyante, »
avança Anna. Richard n'émit aucun commentaire. Il avait déjà vu Chota réussir ce petit tour. Le jour de son mariage, lorsqu'elle était venue offrir un collier très spécial à Callan, personne ne l'avait entendu parler au jeune marié, ni vu s'en aller. La conversation reprit, mais sans la participation de Zed, visiblement troublée.
« Je ne sais pas pourquoi, mais je pense à ta mère depuis tout à l'heure, mon garçon. »«
Oui, ma mère. »«
Si tu savais ce qu'elle me manque. »«
C'est pareil pour moi, tu sais. »« Maintenant que tu en parles, je crois que j'ai pensé à elle il y a quelques minutes. »
« Une part de moi est morte avec elle ce jour-là. »
Richard en resta un moment incapable de parler. « Quelle étrange concordance !»«
Sais-tu pourquoi elle est retournée dans la maison ? Y gardait-elle un objet précieux ? Ou y cachait-elle quelqu'un que nous ne connaissions pas ?
J'étais sûr qu'elle n'avait pas agi sans raison, fiston. » « Mais j'ai fouillé les cendres moi-même et il n'y avait rien à part les siennes. »
Jetant un coup d'œil par la porte, Richard aperçut Chota qui s'éloignait déjà sur son cheval.